René Pujol, Au temps des brumes. Chapitre 6. Comment passe le temps, maître de tout. Penchés sur l'appareil de TSF, les habitants de la carrière écoutaient avec un intérêt passionnant. Le perroquet lui-même tendait le cou sur son perchoir, comme pour mieux entendre. Seul, Pâtureau se désintéressait des événements extérieurs. Assis sur une botte de foin, les coudes levés, les mains croisées derrière la nuque, il fumait béatement sa pipe. Les affaires se gâtaient à Paris, à Londres et à Berlin, sous l'influence d'agitateurs. Il était difficile de comprendre ce qu'ils voulaient. Leurs efforts se bornaient à renverser partout l'état des choses existantes, et ils obéissaient à des lois politiques extrêmement confuses. En France, le mal n'était pas grand. On ne signalait que des exactions particulières, des tentatives de révolte vite réprimées. Encore avait-elle toute la faim pour mobile. Car la famine, malgré les efforts de l'intendance, commençait à exercer ses ravages. Il était d'ailleurs impossible de juger de l'importance du fléau, et bien des gens mouraient en secret. Les hôpitaux ne pouvaient plus recevoir de malades, et ceux qu'ils abritaient étaient à peu près impossibles à soigner. L'administration manquait de tout. Dans le désordre universel, des voix raisonnables essayaient de se faire entendre. Ce soir-là, un grand savant français, Georges Claude, exhortait ses concitoyens au calme et à la raison. « Regardons la situation en face, » disait-il à ses auditeurs. « Elle est triste, elle n'est pas désespérée. Nous admettons que le brouillard enveloppera désormais toujours la terre. Il s'agit donc de s'accoutumer à lui et de vivre malgré les ténèbres le moins péniblement possible. » En somme, c'est comme si les êtres humains avaient perdu un sens, la vue. Il nous reste encore l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Est-ce que les aveugles sont fatalement condamnés à mort? Dans un de ses romans fantastiques, l'écrivain anglais Wells parle d'une vallée dont tous les habitants étaient frappés de cécité héréditaire. Ces gens-là se livrait quand même à tous les travaux d'une société civilisée. Rien ne nous empêche de les imiter, à la condition d'avoir de la patience et de la volonté. Il a raison, dit Madame Fargeau, mais parviendra-t-il à se faire écouter? Sans doute, répondit Jacques, après le bouleversement viendra une période de calme, puisque cette brume n'est pas nocive. On peut cultiver la terre, faire pousser les céréales, nourrir le bétail, comme par le passé. Les enfants qui naîtront sans avoir connu le soleil formeront une humanité nouvelle. Ça, c'est l'avenir, protesta M. Tubaz. Mais du présent, qu'est-ce que vous en faites? Mes rentes ne valent plus rien. Mon capital est tombé à zéro. « Vous ne payez même pas votre loyer, » riposta hargneusement la concierge propriétaire. « Quand viendra le terme de Mme Fargeau, je suis sûre qu'elle payera, elle. » « Mais oui, » répliqua Jacques avec un sourire. « Mme Fargeau, comme d'habitude, vous donnera un chèque que vous irez encaisser à la banque. » Et, laissant Mme Gorgette bouche bée, le jeune homme continua. Le système monétaire devra être modifié, mais cela n'a qu'une importance relative. Les ouvriers intelligents se résigneront à compter autrement, voilà tout. Déjà, les transports par terre et par eau sont redevenus presque normaux. Ils vont plus lentement, mais aussi sûrement qu'autrefois. Tels quels, ils sont encore plus rapides que les diligences et les bateaux à voile. Qui sait, dit Juliette. Il n'y aura peut-être plus de peuple, mais une seule race. si cela pouvait marquer la fin des guerres.
Cela n'en prend guère le chemin, fit M. Tubaz.
Il faisait allusion à ce qui se passait en Europe centrale. Une grande bataille se déroulait en Bohême sans qu'on pût dire entre quelles parties. Deux armées considérables étaient en présence et se heurta pour des motifs imprécis. Les deux troupes possédaient les armements les plus perfectionnés. Des fusils, mitrailleuses, des canons, des tanks et des avions. Mais dans les ténèbres, il leur était impossible de s'en servir. Et elles avaient dû renoncer à tirailler et bombarder au hasard. Les soldats étaient obligatoirement revenus au combat corps à corps, à la féricité de la préhistoire. Mais dans les forêts millénaires, quand deux hordes s'affrontaient, elles pouvaient apprécier la force ou la faiblesse de l'adversaire, se rendre compte s'il était vainqueur ou vaincu. Là, chaque général affirmait avoir le dessus et s'obstinait à exploiter les résultats d'une victoire tout à fait problématique.
Pourquoi s'égorger ? Soupira la douce Madame Fargeau. Ne serait-il pas mieux de s'unir contre le péril commun ?
Un hurlement douloureux les fit tous sursauter. Le chien Goliath se traînait vers sa maîtresse, les oreilles couchées, les gestes convulsifs.
Il a les reins brisés, se lamenta Madame Gorgette.
Pâtureau contemplait le caniche avec une curiosité sceptique.
Il a tout simplement la frousse, dit-il.
Mais de quoi ?
Tiens, le chat fait la même tête.
En effet, Kiki n'était pas plus rassuré. Tapis dans un coin, le poil hérissé, les pupilles dilatées, il paraissait en proie à une terreur folle.
Il va nous arriver quelque chose, s'alarma M. Tubaz. Les animaux nous avertissent, sauf qui peut.
Jacques éclata de rire, et Juliette ne tarda pas à l'imiter. À 30 centimètres des moustaches du chat, une minuscule souris, dressée sur ses pattes de derrière, faisait tranquillement sa toilette en lustrant avec soin son museau de velours.
Un rat, glapit Madame Gorgette en bondissant sur un siège avec une légèreté de gazelle.
Effrayée par ce cri, la souris s'enfuit avec tant de vélocité qu'ils eurent à peine le temps de la voir filer.
Ah là là, Goya Pâtureau, votre chien et votre chat sont d'un courage étonnant.
Madame Gorgette voulut défendre ses favoris.
Ils sont aussi courageux que vous, mais les pauvres bêtes n'ont jamais vu de souris.
Alors, vous comprenez leur émotion.
Pourtant, reprit aigrement M. Tubaz, en échange de la nourriture qu'il gaspille, il pourrait défendre nos provisions. C'est un minimum de service.
Ils le feront, dit héroïquement la concierge. Mais laissez-moi le temps de les dresser, de leur apprendre cet exercice dangereux. Ils se couchèrent de bonne heure, comme tous les soirs. Jacques dormait depuis un temps inappréciable quand un aboiement l'éveilla. Il pensa que le chien rêvait à la souris. Mais, ayant allumé l'électricité, il constata que Goliath, le mufle collé au bas de la porte, flairait soupçonneusement. Sans prévenir ses compagnons, Jacques se leva et sortit en invitant le chien à le suivre. L'animal, grondant sourdement, se dirigea vers l'entrée de la carrière.
« Oh oh !» murmura Jacques, « il y a certainement du nouveau de ce côté-là. »
Saisissant le chien par le collier, il s'avança avec prudence. Et il vit. Assez loin. Quelqu'un, dans la galerie principale, quelqu'un se promenait avec un lumignon. Soudain, une lueur violente emplit le souterrain. Jacques
comprit que d'autres personnes avaient amené une auto jusqu'à la porte et braquaient un phare. Ils ont ouvert, pensa le jeune homme. Le brouillard va tout envahir. Il compta 5 silhouettes noires gesticulant dans l'éblouissante clarté. Il allait s'avancer quand une détonation claqua, immédiatement suivie de 3 autres. Dans les deux camps, celui des gens de l'auto et celui des gens au lumignon, on avait des revolvers et on ne faisait pas faute de tirailler. Incontestablement, les assaillants avaient l'avantage. Ils voyaient et on ne les voyait pas car ils restaient derrière les réflecteurs. Une balle ricocha jusqu'à Jacques, mais caché derrière un pan de roche, il ne risquait rien. Si la moitié seulement des projectiles avaient porté, assiégeants et assiégés eussent été vite exterminés. Mais il est difficile de viser avec un Browning, surtout quand on se hâte. Soudain, les ténèbres remplirent de nouveau la carrière. Une balle avait brisé le phare de l'auto. Jacques entendit des cris furieux et 4 nouveaux coups de feu. Les vaincus se débandèrent. Ils passèrent devant lui dans l'obscurité. Ils étaient 3 ou 4 et l'un d'eux le frôla. Les vainqueurs passèrent ensuite au nombre de 3. Il faisait briller, par intermittence, une lampe électrique de poche. Il haletait et parlait. « Tu es blessé, Pierre ?»« Je dois avoir le radius cassé. »« Ah, diable !»« C'est ennuyeux, mais je ne souffre pas trop. »« Les brutes, si nous les dénichons, nous les exterminerons sans pitié. » »« Tu es sûr qu'ils ont le chocolat ?»« 3 gros paquets. Je les ai vus. » »« Alors, il faut les rejoindre à tout prix. J'ai l'estomac dans les talons. » »« Mon bras enfle. Il faudrait arrêter le sang. » »« J'ai mis un mouchoir de toile. Nous allons te panser. » Ils étaient à quelques pas de Jacques. La lampe électrique les éclairait imparfaitement. Toutefois, le jeune homme, dans le petit cône de lumière, aperçut un bras ensanglanté, nu jusqu'au coude, le visage énergique, dur, d'un homme dans la force de l'âge. Puis la lampe s'éteignit. 3 hommes s'enfoncèrent dans un vague brouhaha de paroles. Pour empêcher Goliath d'aboyer, Jacques lui serrait le museau à pleine main. Il lui tardait de regagner le campement, car il craignait maintenant pour la sécurité de la petite colonie. Toutefois, il courut d'abord refermer la porte pour arrêter l'invasion du brouillard qui roulait lentement dans la galerie dont il avait déjà conquis une 20aine de mètres. Cela fait, Jacques prêta l'oreille. Mais le silence de la carrière n'était plus troublé. Il libéra Goliath, qui s'esquiva sans aboyer. Jacques rejoignit ses compagnons qui n'avaient pas entendu le bruit de la bataille. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda M. Tubaz d'une voix pâteuse. « Rien, » répondit brièvement Jacques. Le plus discrètement possible, il consolida la porte au moyen de 3 poutrelles dont il réussit à enchâsser les extrémités dans la pierre. Puis, il se coucha, décidé à ne pas s'endormir. Chapitre 7. Où la vie n'est plus aussi tranquille. Plusieurs détonations toutes proches éveillèrent en sursaut les membres de la petite colonie. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Madame Gorgette en pressant son chat et son chien sur son cœur. « On nous attaque !» s'écria M. Tubaz. Il tourna le commutateur, mais Jacques ordonna précipitamment. « Éteignez ! Éteignez donc !» Le petit rentier obéit, et l'obscurité les enveloppa de nouveau. Le nez collé au bas de la porte, Goliath reniflait et grondait sourdement. Une autre détonation éclata, juste devant le réduit. Ils entendirent des gens courir sans prononcer un mot. puis plus rien. Puis-je rallumer ? Fit enfin M. Tubaz après un silence qui parut durer un siècle.
Attendez encore, répondit Jacques. Il se demandait ce qu'il fallait faire.
Dans les galeries, la bataille de la veille avait recommencé. Un parti était en fuite. Il était probable que les fugitifs, s'ils étaient sortis de la carrière, n'avaient pas pris la peine d'en reboucher l'entrée. Le brouillard devait, par conséquent, rouler doucement, irrésistiblement.
Il faut aller se rendre compte tout de suite, conclut le jeune homme. Mais quand il manifesta à voix basse son intention de partir avec Pâtureau, ses compagnons protestèrent. Ils ne comprenaient pas l'utilité de cette expédition et ne l'admettaient sous aucun prétexte.
Jacques leur rapporta la scène dont il avait été le témoin involontaire. Il racontait dans l'ombre, sans distinguer aucun visage, mais il devinait qu'on l'écoutait avec une angoisse croissante. Lorsqu'il eut fini, Juliette prit la parole.
« Vous avez raison, dit-elle. Il importe de vérifier au plus tôt la fermeture de la carrière. »
« Mais il y a du danger, murmura Madame Fargeau.
Jacques la rassura, affectant un optimisme qui n'était pourtant pas dans son esprit.
Pas beaucoup, madame. Ces gens-là s'acharnent les uns contre les autres. Ils ne s'occupent pas de nous. Ils ignorent notre présence.
Revenez le plus vite possible, reprit Juliette.
Je vous le promets, dit Jacques. On y va, Pâtureau ?
Oui, répondit tranquillement le colosse.
Le caniche voulait suivre les deux patrouilleurs, mais Jacques préféra le laisser dans la caverne. L'animal pouvait leur être utile en révélant, grâce à son flair, l'approche des étrangers. Jacques portait son Browning et sa lampe électrique, Pâtureau son gourdin. Les deux hommes se glissèrent dehors, prêts à toute éventualité. La galerie était d'autant plus dangereuse qu'elle était obscure et qu'ils ne voulaient pas faire de lumière. Dès les premiers pas, Jacques buta contre un tas mou qui faillit le faire tomber. Le dernier coup de revolver avait porté, un corps gisait là. Ce corps ne bougeait plus, mais par souci d'humanité, Jacques voulut savoir si tout secours était vraiment inutile. Il braqua sa lampe et, un simple coup d'œil sur le visage livide, sur les yeux à demi ouverts et révulsés, lui prouva que l'homme était mort.
Traînons-le dans une galerie transversale, dit Jacques. Ce spectacle n'est pas encourageant.
Pâtureau saisit le cadavre par les épaules et le tira dans une anfractuosité.
Faudra l'inhumer, dit-il avec sa placidité ordinaire.
Comme ça, on ne le verra plus.
Si les amis de la victime se mettaient en quête du corps, sa disparition leur prouverait qu'il y avait du monde dans la carrière et les inciterait à rechercher à qui ils avaient affaire.
Mais ils doivent le savoir déjà, pensa Jacques, puisque j'ai barricadé à la porte derrière eux.
Pâtureau interrompit ses réflexions.
Donnez un coup de lumière, monsieur Jacques. Nous sommes peut-être en plein dans le brouillard.
Un bref éclair de la lampe le rassura. L'atmosphère n'avait rien perdu de sa transparence. La brume était entrée en trop faible quantité pour troubler l'air.
Donc, fit le déménageur, ils ont poussé le ventail.
Ils ont peut-être filé.
Je l'ignore, mais c'est peu probable, répondit Jacques.
Dommage, si nous étions sûrs de leur départ, nous construirions un mur qui les empêcherait de revenir. Après tout, nous n'avons aucunement besoin de ces gens-là chez nous.
Pâtureau disait « chez nous » comme si le souterrain lui eût appartenu. La loi du premier est une de celles que les humains les plus civilisés appliquent de bonne foi dès que les circonstances l'exigent. Ils progressaient toujours côte à côte dans les ténèbres, et ne s'arrêtèrent
que devant la paroi de bois. Paturo ne s'était pas trompé. Les inconnus avaient refermé la porte. L'ont-ils même rouverte? Fit Jacques. En tout cas, il faut vérifier l'obturation des fentes. Il lui suffit de promener de haut en bas le faisceau lumineux de sa lampe pour être renseigné. Les sacs avaient été remis en place, mais pas de la même façon. Par conséquent, ils sont encore dedans, dit Paturo, avec un soupir de regret. Nous n'y pouvons rien, répliqua Jacques. D'ailleurs, ce ne sont peut-être pas des ennemis. Des gens qui aiment tant le revolver. Jacques continuait soigneusement l'examen du chambranle. Il n'y a sans doute plus qu'un seul clan avec nous. Ces entretoises et ces madriers sont mis pour empêcher le retour de ceux qui sont sortis. Tant mieux, se réjouit Paturo. S'il faut se battre, moins il y aura d'adversaires, mieux ça ira. Tout le tour de la porte inspectée, Jacques examina la jonction médiane des deux vantaux. À 1,50 m de hauteur environ, un papier était fixé au moyen d'une épingle. Jacques lut le papier. Avis important. Les habitants de cette carrière sont instamment priés de se mettre en communication avec nous. Il leur suffira de pousser 3 cris distincts auxquels nous répondrons aussitôt. Il n'y avait pas de signature, mais un nom n'eut rien signé de plus à Jacques. On crie, demanda le colosse. Non, répondit sans hésiter Jacques. On finira tout de même par se rencontrer. Peut-être, mais avant de prendre une décision, je désire consulter nos compagnons. Comme vous voudrez, dit le peu contrariant Paturo. En tâtant le parvis, ils regagnèrent l'abri où ils retrouvèrent leurs amis inquiets, mais qu'aucun danger n'avait menacé. Ils étaient restés dans l'obscurité, sur le conseil de Juliette. Jacques les mit au courant de ce qui se passait, et ils furent unanimes à déclarer qu'il fallait éviter tout contact avec les inconnus suspects. « La porte est assez solide pour résister, » répondit Juliette. « Ils ne l'enfonceront pas d'un coup d'épaule. » « D'ailleurs, » ajouta Jacques, « nous allons encore la renforcer. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela. J'ai eu tort d'emprunter le bout de papier. Si je l'avais laissé en place, celui qui l'a rédigé n'aurait peut-être pas été certain de notre présence. » Madame Gorchette donna son avis. Nous ne pouvons pas rester tout le temps sans lumière. Pour qu'on ne repère pas tout de suite notre logis, nous allons calfeutrer les fentes. Si aucune lueur ne filtre, on passera devant la porte sans soupçonner notre présence. Une demi-heure suffit à cette besogne. Jacques tint à se rendre compte lui-même, sortit dans la galerie, et constata qu'on n'apercevait pas la moindre lumière. Ce résultat acquis, M. Tubaz voulut qu'on s'occupât immédiatement de transformer la caverne en forteresse. « Un instant, » dit alors Madame Gorgette, « il faut d'abord aller chercher de l'eau, car nous n'en avons plus une goutte. » Paturo voulut remplir cette corvée, mais Jacques tint à l'accompagner. Il connaissait assez bien le chemin de la source pour y parvenir sans lumière. Ils firent tout le trajet en silence et commencèrent à remplir les récipients qu'ils avaient apportés. Le premier seau était à peu près plein quand une très vive lumière les éblouit. En même temps, une voix d'homme prononça « Haut les mains, messieurs, et surtout, pas un geste de défense, sinon je tire sans hésiter. » Jacques et Paturo obéirent, cherchant vainement à distinguer l'homme qui venait de démasquer son phare à acétylène. Si vous êtes docile, reprit cet homme, il ne vous arrivera rien de fâcheux. Comme notre conversation sera peut-être longue, je vous conseille de vous asseoir. La position de vos bras serait vite fatigante. Posez vos mains sur les genoux, bien à plat. Surtout, pas le plus petit mouvement vers vos poches. Quand Jacques et Patureau, comprenant le danger et l'inanité de toute résistance, eurent ponctuellement exécuté les instructions de l'inconnu, celui-ci continua. Il eût été plus simple de pousser les trois cris. Cela nous aurait permis d'entrer en relation d'une manière plus amicale. Enfin, c'est vous qui avez préféré cette méthode. Maintenant, messieurs, causons. Chapitre 8. Comment l'homme est un loup pour l'homme. Jacques, insensible à la frayeur, avait conservé toute sa lucidité. Ayant pleine confiance dans le courage et l'obéissance passive de Patureau, certain que le colosse exécuterait instantanément et aveuglément les ordres qu'il lui donnerait, il décida d'observer d'abord ses agresseurs avant d'adopter une solution. Assis par terre, les mains à plat sur ses cuisses, il attendit la suite. L'homme au phare, persuadé de la résignation de ses prisonniers, dit « Allume, Gaston !» Un être, jusque-là ignoré de Jacques, éclaira aussitôt le souterrain. Tout comme la colonie Gorgette, les nouveaux venus avaient découvert sans peine l'installation électrique de la carrière. Jacques se trouva en présence de deux hommes qu'il examina avec curiosité. L'un avait la quarantaine et l'autre atteignait à peine la trentaine. Leurs vêtements paraissaient élégants, bien coupés, mais ils étaient maculés de boue et de taches. Le plus âgé portait un col et une cravate. Mais le second, celui qui s'appelait Gaston, avait le cou nu. Ces deux hommes devaient appartenir à la classe élevée de la société, mais leurs cheveux embroussaillés, leurs mentons non rasés depuis plusieurs jours, leur donnaient l'aspect de bandits sans foi ni loi. D'abord, comment vous appelez-vous ? Demanda le plus âgé, pendant que l'autre réduisait la flamme du phare à acétylène. « Lebray, répondit Jacques. « Et moi, Patureau, grogna le déménageur. « Et vous, comment diable vous nommez-vous ? « Dominie, dit l'homme sans se formaliser du ton bourru de la question. « Avant le brouillard, vous habitiez Paris ? « Non, Meudon, dit Jacques. Il était résolu à feindre la résignation pour amener Dominie à relâcher sa surveillance. Si tu lâches ton revolver pendant une seconde, pensait-il, je te promets un joli changement de rôle. Mais Dominique gardait sans affectation son âme bien en main et ne paraissait guère disposé à s'en dessaisir. Nous, nous sommes de Paris, reprit-il avec une complaisance fort courtoise. « Vous êtes installé seul dans cette magnifique cave ?»«
Oui, répliqua aussitôt Jacques.
« Je suppose que vous n'y êtes pas venu par hasard. »«
Nous connaissions en effet l'existence de ce souterrain, avoua Jacques. »«
Alors, vous vous y êtes installé le mieux possible, » dit Dominique. « Vous avez apporté des vivres, n'est-ce pas ?»«
Très peu, » dit Jacques.
Dominique et Gaston échangèrent un regard satisfait. Nous, continuait Dominique, nous avons poussé jusqu'ici tout à fait par hasard pour poursuivre des voleurs. Mon secrétaire, aidé de quelques acolytes qui ne valaient pas mieux que lui, m'avait dérobé ma fortune. Nous avons eu la chance de ne pas perdre le contact, ce qui est un véritable miracle. Nous avons fait justice de ces coquins et récupéré les billets de banque. Il ne reste plus qu'un voleur vivant. Il est dehors et n'a nulle envie de s'approcher de nous. Je vous raconte cela pour vous expliquer les coups de revolver que vous avez dû entendre et pour que vous ne vous mépreniez pas sur notre mentalité.
Monsieur, répondit froidement Jacques, je suis aussi honnête que vous, mon ami aussi, et vous nous menacez pourtant de votre revolver. Votre conduite à notre égard est plus éloquente que n'importe quel discours.
Dominique sourit. Je suis prêt à rempocher mon arme, dit-il. Promettez-moi seulement de ne pas chercher à vous échapper.
Vous nous considérez donc comme vos prisonniers, fit Jacques.
Non, non, je vous considère comme des gens avec qui il est indispensable que je traite une affaire.
Quelle affaire ? S'étonna le jeune homme.
La vente de vos vivres, car nous avons faim. Je vous paierai très largement.
Nos vivres ne sont pas à vendre, dit Jacques. Je vous en donnerai pour apaiser votre faim et vous permettre d'aller plus loin.
Ce n'est pas ce que nous désirions, fit Dominique. J'achète en gros et non au détail. Je vous donne 1 million pour la totalité de vos provisions.
1 million, c'est une jolie somme.
Vous n'avez sans doute que quelques boîtes de conserve.
Mais je suis correcte. Et je ne veux pas que vous m'accusiez de vous exploiter.
Ça va-t-il ?
Je refuse, dit Jacques. Ce n'est pas votre million qui nous empêcherait de mourir de faim.
Dominique insista. Vous connaissiez Meudon. Vous trouverez de quoi subsister.
Jacques comprenait maintenant trop bien la tactique de ces hommes. Il voulait le dépouiller de toutes ses provisions de bouche, et leur offre d'argent était pour ainsi dire ironique. Au fond de la carrière, même ailleurs, les valeurs fiduciaires avaient aussi peu de pouvoir d'achat qu'un morceau de papier ordinaire. Toutefois, Dominique semblait si bien élevé, s'exprimait avec tant de courtoisie, que Jacques ne le considérait pas comme un ennemi irréductible.
Monsieur, dit-il, vous qui avez poursuivi implacablement votre caissier infidèle, vous ne pouvez pas songer réellement à devenir voleur vous-même.
Monsieur, répondit Dominique, vous ne pouvez pas traiter de voleur quelqu'un qui vous offre 1 million en échange de marchandises qui valent à peine quelques centaines de francs.
Mais sans ces marchandises, objecta Jacques, nous mourrons.
Nous aussi, riposta Gaston avec une jovialité d'un effet sinistre. C'est pourquoi nous les voulons si ardemment.
Vous ne les tenez pas encore, fit Pâtureau véhément.
Oh, cela ne tardera pas, reprit Dominique. Le plus sage serait de nous conduire tout de suite à votre dépôt.
Cette phrase permit à Jacques de supposer que Dominique ignorait l'emplacement et l'existence de la caverne où se cachaient les femmes et M. Tubaz. Cela le rassura, mais il voulut être certain de l'ignorance de ses bourreaux.
« J'ai quand même le droit de refuser. »«
Oh oui, monsieur, répondit aimablement Dominique, mais dans ce cas, votre ami et vous resterez nos prisonniers. »
Et nous souffrirons gaiement de la faim tous ensemble, ajouta Gaston.
Quand nous serons assez maigres, vous finirez bien par nous indiquer votre cachette.
Bien entendu, reprit l'autre, ces conditions nouvelles modifieront notre premier marché. Nous prendrons vos vivres, mais vous n'aurez plus notre million.
Comme vous voudrez, dit Jacques.
Dominique s'inclina. Puisque telle est la conclusion de ce débat, je n'insiste pas pour le moment. Nous attendrons ensemble. Nous sommes handicapés car vous êtes probablement rassasiés alors que nous n'avons rien mangé depuis 48 heures. mais nous compenserons cela en vous privant de boire. La soif, paraît-il, est plus impérieuse que la faim. » Et Gaston donna un coup de pied à un seau plein, dont l'eau se répandit sur les jambes du pâtureau. Le colosse lui décocha un tel regard que l'autre, au fond, peu rassuré, ricana.
« Oh oh, le gros n'a pas l'air commode.
Je crois qu'il serait sage de le supprimer si je ne veux pas être supprimé moi-même à la première occasion. »
« Plus tard, » dit Dominique, « qui sait, nous le mangerons peut-être. Il paraît un peu coriace, mais enfin... »
Le cynisme gouailleur de son adversaire exaspéra soudain Jacques qui s'écria « Vous n'êtes qu'un sauvage !»«
Oui, monsieur, » dit Dominique, « je mérite en effet le titre de sauvage. Et il n'y a plus que des sauvages sur la croûte terrestre. La civilisation a craqué, comme un mauvais vernis. Ainsi qu'au temps de la préhistoire, l'humanité obéit désormais à la loi naturelle qui n'a rien de tendre, tuer pour manger. Elle n'a d'ailleurs jamais cessé d'appliquer cette loi. Elle a simplement augmenté son hypocrisie. Nul Parisien cultivé ne pourrait contempler sans horreur l'immense troupeau de bœufs, de moutons, de porcs, de volailles assassinés pour le nourrir et le vêtir pendant 5 ans.
Jacques épiait toujours ce bavard. Mais Dominique ne relâchait pas une seconde sa surveillance. Et l'index de sa main droite était toujours à demi replié sur la gâchette du Browning.
Gaston, dit l'homme au million, débarrasse ces messieurs des objets dangereux qui pourraient encombrer leurs poches. Un accident est si vite arrivé.
Gaston les fouilla sans vergogne et fit main basse sur le revolver de Jacques.
Pâtureau eut peine à résister au désir de broyer entre ses doigts le cou de son vainqueur, mais il se contint. Du moment que Jacques n'avait donné aucun ordre dans ce sens, il ne fallait pas encore se battre.
Dominique, la fouille terminée, parla de nouveau avec son insupportable politesse.
Vous refusez toujours de nous révéler où sont cachées les provisions que nous convoitons.
Et Jacques ne répondant pas, il est certain que je vous poserai bientôt un ultimatum plus sévère. Vous ne pourrez rien me reprocher, c'est vous qui l'aurez voulu.
Debout, messieurs. « Vous allez marcher devant nous jusqu'à notre campement. »«
Ne marchez pas trop vite, sinon une balle couperait net votre élan. »
Ce fut avec une satisfaction infinie que Jacques s'éloigna de la galerie centrale.
Dominique ne supposait pas que le fameux dépôt de vivres se trouvait si près de l'entrée de la carrière. Ils n'eurent pas besoin du phare à acétylène, car ils ne quittèrent pas les boyaux éclairés à l'électricité.
« Nous les aurons, » murmura Pâtureau pour exprimer sa confiance.
« Parlez à haute voix, » intima aussitôt Dominique. « Je veux entendre tout ce que vous dites. »
« Je t'assure, » fit Gaston de sa voix sèche, « nous ferions mieux d'abattre le gros. » Il a une tête qui ne me revient pas du tout.
Plus tard, répéta laconiquement Dominique.
Après un quart d'heure de marche, ils parvinrent à une sorte de carrefour d'où rayonnaient plusieurs galeries. Là était installé un campement rudimentaire, simplement composé de coussins d'auto, de quelques couvertures et de 4 bidons d'essence.
Pas mal, pensa Jacques. Quand Juliette nous cherchera, elle pourra nous apercevoir de loin. Cela évitera peut-être un malheur. Nullement abattu, plein de force, il n'admettait pas la défaite définitive et croyait à une prompte revanche. Le supplice de la soif ne l'inquiétait pas encore,
et il se croyait capable d'y résister longtemps. Un gémissement éveilla son attention. Il y avait là un troisième personnage, un blessé, étendu au pied de la paroi. Jacques reconnut celui qu'il avait entendu nommer Pierre et qui avait un bras brisé par une balle. Ce Pierre paraissait en piteux état. Ses yeux, grands ouverts, ne semblaient rien voir. Il était en proie à une violente crise de fièvre. Gaston prit un gobelet dans une trousse de voyage et humecta les lèvres du blessé qui but avidement. Puis prononça quelques mots à voix basse. « Toujours le délire ?» demanda
Oh là là !«
Toujours le délire ?» demanda Dominié.
« Toujours, » répondit Gaston en se relevant.
« Ah, si nous avions un cachet de quinine !»«
Moi j'en ai, » dit Jacques.
« Sur vous ?»«
Non, mais... »
Alors n'en parlons plus, coupa Dominié. Je ne suis pas assez naïve pour vous permettre d'aller en chercher. Vous seriez tellement tenté de ne pas revenir.
Vous préférez que votre camarade agonise ? S'indigna Paturo.
Il n'agonise pas, déclara Gaston. Il est de complexion robuste, il sera bientôt sur pied. Vous pouvez avoir confiance en mon diagnostic, je suis médecin. Et il leur tourna le dos, avec une insolence qui augmenta la haine de Paturo. Jacques, feignant l'indifférence, s'adressa à Dominié. « Quelle place nous assignez-vous, monsieur ?»
Dominié désigna le sol. « Là, je vous prête cette couverture. »«
Vous êtes trop aimable. »«
Mon amabilité ne va toutefois pas m'empêcher « de vous attacher les pieds et les mains, » riposta Dominié.
Le déménageur riposta. « Nous attacher ?
Pourquoi ?»«
Pour vous empêcher de nous fausser compagnie, » expliqua le docteur. « Vous serez convenablement ligoté, car c'est moi qui me charge de cette besogne. »«
Veuillez nous pardonner cette contrainte, » continua Dominié, « mais c'est votre attitude qui la rend nécessaire. » Nous allons, Gaston et moi, repartir à la recherche de vos provisions. Vous comprenez certainement que pendant ce temps, il nous est impossible de vous laisser en liberté.
Où sont les cordes ? Interrogea Gaston.
Dans la trousse. Le docteur n'avait pas menti en promettant de la besogne bien faite. 10 minutes plus tard, Jacques et Paturo avaient les poignets et les chevilles attachés de telle sorte qu'il leur était impossible de songer à se délier. Gaston avait tellement serré que Jacques sentait déjà le sang affluer à ses mains. Mais il comprit que sa plainte réjouirait ses bourreaux et il ne protesta pas contre la cruauté du traitement qu'on lui imposait. Dominié observait pensivement les prisonniers. « Ils sont deux, » dit-il. « Dès que nous aurons disparu, l'un va essayer de ronger les cordes de l'autre avec les dents. »«
Ça les distraira, » dit Gaston.
« À quoi bon les fatiguer pour rien ?» poursuivit le trop poli Dominié. « Mieux vaut les attacher à quelque distance de l'autre. »«
Canaille, » jura Paturo.
« Je suis navré de ce jugement, » dit Dominié. J'espère que vous conviendrez sous peu que nous sommes de braves gens.
Les prétendus braves gens attachèrent leurs prisonniers à 2 poteaux de soutènement éloignés de 5 mètres. Les cordes étaient disposées de telle sorte qu'il était impossible aux malheureux de les atteindre.
Voilà, dit Dominié. Maintenant, je m'en vais tranquille. Il ne vous est pas défendu de parler, mais si vous criez, j'aurai le profond regret de vous bâillonner la prochaine fois. J'espère que vous réfléchirez et que vous vous concerterez gentiment pendant notre absence.
Vous méditerez dans des conditions éminemment favorables, car nous allons éteindre l'électricité qui gêne notre pauvre blessé. » Le dernier espoir de Jacques s'effondrait. Avec la lumière, il risquait d'être découvert par un des membres de la colonie. Sans lumière, c'était impossible. Et si les explorateurs allumaient l'électricité, ils donneraient immédiatement l'alarme à l'infernal Domini. La lueur du phare porté par Gaston décrut, puis disparut complètement. L'obscurité, froide et lourde, enveloppa les prisonniers. Le silence n'était troublé que par les faibles plaintes de Pierre.